Bonjour. De quoi on va parler ce matin?
Bon.
J'ai pris Jean, chapitre 20. Alors j'avais le choix. Dans les quatre évangiles, on parle de la résurrection. C'est extraordinaire. Les quatre évangélistes sont absolument d'accord. Alors j'ai pris donc Jean 20, à partir du premier verset. Et je lis. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place qui avait été couchée, où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'elle lui avait dit ces choses. Amen. C'est une histoire extraordinaire, mais c'est pas une histoire, c'est la vérité. C'est un récit vrai. Alors vous savez que la Pâque juive, elle était le 14e jour du mois appelé Nisan à l'époque. Ça correspond au mois d'avril aujourd'hui. C'était le premier mois de l'année. On est au mois d'avril, mais bon, aucune importance. Donc simplement pour vous dire que c'est presque aujourd'hui, hein. Et avec la résurrection, c'est tous les jours, bien sûr. La scène nous a rappelé toute l'horreur de la crucifixion et la mort de Jésus, pour que nous soyons justifiés par son sang. Hein. À chaque fois, on le vit avec émotion. Donc, juste avant Jean 20, en Jean 19, on retrouve Nicodème. Hein, c'est... Oui, voilà. Bon, on ne va pas lire le 28, mais à partir du 39, il y a Joseph d'Arimathée qui vient réclamer le corps. Alors, 19, 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Waouh! On se rend compte qu'il veut honorer Nicodème qui était venu de nuit voir Jésus, lui poser des questions pour pas qu'on le remarque. Et là, en plein jour, il ose venir amener, pouvoir honorer le corps de Jésus. 100 livres d'aloès, un mélange d'aloès et de myrrhe, ça fait, j'ai regardé, à peu près 32 kilos. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Alors certains diront, il vient un peu tard quand même. Il attend que Jésus soit mort pour reconnaître la vérité de Jésus, son ministère. Plutôt que d'avoir profité de sa présence, hein. Mais quelque part, il fait un peu mieux que les disciples. Ils sont évaporés, les disciples, ils sont plus là. Alors il est vrai, il faut remarquer quand même que vu la position sociale, vu le pouvoir de l'argent qu'il avait, il pouvait se permettre de venir réclamer le corps. Les disciples, peut-être pas. Mais enfin, ouvertement, en plein jour, il vient. C'est une bonne démarche quand même. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas? Mais c'est quand même sage et recommandé de venir à Jésus et de reconnaître qu'il est le Seigneur, n'est-ce pas? Il n'est pas trop tard. Alléluia. Ça, c'est une différence par rapport au début de ce texte. Alors, c'est vrai qu'à la lecture de ce texte, on peut avoir la pensée de dire, ça nous est déjà arrivé à tous peut-être, j'aurais aimé souhaiter vivre cet événement, être là quand le Seigneur est ressuscité ce jour-là. Mais, je ne sais pas si on se rend compte dans l'état dans lequel étaient tous les disciples et Marie de Magdala, à ce moment-là, effondrée, au moral le plus bas. Je crois qu'on n'aurait pas pu profiter de pleinement ces moments, aussi bien et aussi intensément que lorsqu'on l'a vécu à notre conversion, quand Jésus s'est présenté à nous. Je crois qu'on n'aurait pas été, même avec toutes nos connaissances qu'on a d'aujourd'hui, c'était impossible de pouvoir réaliser ce que le Seigneur faisait, dans la puissance qu'il accomplissait dans sa résurrection. Ils étaient surpris, ils se posaient des interrogations, ils étaient même réticents à croire que les femmes avaient vu. Mais on a lu, par exemple, en Luc 24, verset 11, il est dit « des niaiseries ». Des niaiseries. Est-ce qu'on aurait fait mieux? On aurait dit, ah bon? C'est vrai? T'es sûr? T'as bien vu? T'as vérifié? C'est vrai? T'as rêvé, t'as pensé, c'est pas possible. Alors quand je reviens à ce texte, elles arrivent, la pierre est roulée. La première pensée des femmes, c'est quoi? Ils ont enlevé le corps. Vous vous rendez compte, le désarroi, elles venaient honorer Jésus. Le corps est là, c'est l'incompréhension totale. Elles sont même scandalisées peut-être. Non seulement Jésus est mort, ils l'ont tué, mais en plus on les empêche de venir honorer l'être qu'ils ont aimé, le Seigneur, le maître de leur vie qu'ils ont aimé. C'est grave, ça ajoute encore plus à leur épreuve. Alors, un tout petit remarque, c'est qu'on se rend compte que les femmes sont toujours là. Elles sont encore présentes à la crucifixion de Jésus, avec Jean, vous vous souvenez? Et maintenant, elles sont les premières à venir au tombeau. Dès la première heure, elles sont toujours là. Marie de Magdala, il y a même des noms, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres. Elles n'étaient pas toutes seules, peut-être 6, 7, on ne sait pas. C'était des épouses, des mères. Et je veux souligner que leur rôle n'était pas secondaire. Leur place est importante. On l'a même entendu ce matin, je dis, tiens, le Seigneur a son esprit ici dans cette salle, parmi nous, parmi ses enfants, l'esprit de ces femmes. Vraiment, c'est extraordinaire. Ça souligne quoi? C'est que la fidélité, elle est discrète, mais elle est efficace. La fidélité, elle plaît à Dieu. Dieu aime la fidélité. Et c'est une bonne manière de l'honorer. Elle n'est jamais brandie en avant. Moi, je suis fidèle. Non, c'est faux. C'est toujours le dernier, mais qui est toujours là. Toujours là. Gloire à ces gens fidèles, gloire à ces femmes qui nous montrent encore l'exemple. Alors c'est vrai qu'elles perdent beaucoup et même tout ce qui est le plus important pour elles. Et à ce moment-là, quand ça arrive, les sentiments, les émotions, ça s'affole, on ne sait plus maîtriser tout ça. C'est une situation tellement douloureuse. Et puis ce manque de pouvoir exprimer sa peine. Vous savez, à l'époque, 7 jours on faisait un deuil, 7 jours. Alors on enterrait vite les corps. Mais 7 jours, et on exprimait sa peine, on la criait, il y avait des pleureuses, et c'était pas du cinéma, les gens voulaient exprimer vraiment leur peine. Alors il est vrai qu'elles avaient été privées de cela, puisqu'elle avait été ensevelie rapidement, elles ont juste suivi de loin, et elles ont vu qu'on l'avait mis là, dans ce tombeau. Alors, en plus elles arrivent, le corps n'est plus là. Donc, je vous le dis, faut pas imaginer, avec toutes les connaissances qu'on a, avec le recul, avec l'expérience qu'on a, la connaissance de la parole, on n'aurait pas vécu cette résurrection de la même façon. La meilleure résurrection qu'on a vécue, c'est quand le Seigneur s'est révélé à nous, à notre conversion. Pensez ça. Enfin, moi, j'ai réalisé ça. Alors, vous voyez, ils sont aveuglés par leurs sentiments, ils perdent leur temps peut-être à chercher des explications. Pourtant, j'ai déjà évoqué cette ce sentiment, mais ils ont vécu des choses extraordinaires avec Jésus. Hein. Ils ont bu ses paroles, ils ont même dit « À qui irions-nous » Donc, ils ont vu les miracles, ils ont vu des résurrections, donc celle de Lazare. Ils ont vécu des choses, ils ont même été envoyés deux par deux dans les villages, vous vous souvenez? Le Seigneur les a envoyés avec le pouvoir de guérir, d'annoncer. Ils ont vu des choses extraordinaires. Et là, ils sont totalement, totalement anéantis. Ils n'ont plus aucune possibilité. Sans Jésus, ils se sentent anéantis. Il y a même Pierre, Jacques et Jean, souvenez, en Matthieu 17, ils ont assisté à la transfiguration de Jésus. Et au verset 9, il leur annonce qu'il va ressusciter. Il leur a annoncé, ils ont oublié. C'est dans une case de leur mémoire, mais c'est inaccessible. Devant ce désarroi, ils ne savent plus réagir. Peut-être qu'il y a un petit sursaut, on a l'impression, de la part du disciple qui vient avec Pierre. Alors moi, je soupçonne que c'est Jean, mais il faudrait vérifier. Qui vit et qui crut, verset 28. 8, pardon. Il vit, il voit que le corps n'est plus là, il voit les bandelettes, il voit, il croit. Mais très vite, on lit qu'il arrive en courant, il s'arrête, il n'entre pas d'ailleurs, pour constater que le tombeau, il constate simplement que le tombeau est ouvert. C'est après que Pierre soit entré qu'il constate. C'était pas des rêveries. Il croit quoi? Que ce n'est pas des rêveries. C'est vrai, le corps n'est plus là. Car il n'avait pas compris les Écritures selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. C'est l'explication qu'on a au verset 9. Et c'est vrai qu'ils vivent le drame de leur vie, la catastrophe insoupçonnée. Ils essaient de se souvenir ensemble. Ils se rassemblent. Ils essaient de peut-être de se réconforter, de se lamenter. Je ne sais pas. Il nous est pas dit exactement comment. Mais ils étaient vraiment anéantis. J'insiste. Hein, c'est fort. Je vais vous donner un exemple. Récemment, c'est cette semaine, notre voisine a subi un choc. Elle était déjà veuve de son mari l'année dernière. Elle avait perdu sa fille il y a 3 ans d'un cancer, une leucémie foudroyante. Et là, cette semaine, elle apprend le décès de son petit-fils de 20 ans suite. Il faisait de la boxe dans la cave avec les copains. Et puis un mauvais coup, paf paf, hémorragie, machin, truc. Il est décédé. Qui la consolera? Notre voisine, elle est quand même bien entourée, sa famille est là. Elle peut compter sur ses voisins même. Même nous, on lui a témoigné notre sympathie, notre affection même. Alors je vous dis ça pourquoi? Il ne s'agit pas de se mettre à sa place, mais de comprendre l'intensité du désarroi de Marie. Vous voyez, ça ramène à notre échelle. On comprend tout ça. Et on lit au verset 10, là, ça m'a éberlué un peu, les disciples retournent chez eux. Encore une fois, sans Jésus, ils ont l'impression de ne pouvoir rien faire. On a l'impression que leur expérience, si riche, si vivifiante, si extraordinaire, elle s'arrête là, quoi. Le ministère de Jésus semble s'arrêter brutalement, sans arriver jusqu'à son terme. Alors les chrétiens, ils peuvent connaître tout le contenu de la Bible. Il y en a un qui des fois m'épate, parce que vraiment, ils connaissent très bien leur Bible. Moi, j'ai du mal à trouver les références. J'ai dans l'esprit, mais les références, c'est pas facile, je les retiens pas. Bref. Mais est-ce que le savoir est suffisant? Vaut-il pas mieux connaître et vivre et ressentir plutôt que de savoir? Hein, vous êtes d'accord avec moi? L'évangile ne s'arrête pas là. Vous êtes d'accord? On l'a chanté. Le mot fin, c'est pas le vocabulaire de Dieu. C'est pas le même que le nôtre. On a l'impression, si on s'arrêtait là, on s'arrête à la porte du tombeau. Il faut y entrer pour constater que Jésus n'est plus là, n'est-ce pas? Heureusement, le deuxième disciple, là, qui est avec Pierre, il entre et il voit. Et là, il voit, il croit. Jésus n'est plus là. Je me souviens quand je travaillais à la SIXEM il y a déjà longtemps, je partageais un peu, ouais, moi je crois, oui, le Seigneur. T'es... Puis le gars me dit, tu sais pas que les philosophes ont dit, mais Dieu est mort, Dieu est mort. Hein? Attends, faut pas rester là. Et là, ça m'a ouvert l'esprit, je me suis dit, attention, Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lesquelles ? Celles qui polluent l'évangile. Alors attention, juste une petite parenthèse comme ça. Pourquoi ? Parce que l'homme pense que tout a un début et une fin. Pas sûr, on est limité. Alors on a un début, on a une fin, on a une naissance, on a une mort. Mais pour Dieu, je voudrais vous laisser ça. Un début, ça annonce un but. Il y a vraiment un but, une finalité qui n'est pas seulement une étape. Ce n'est pas une étape, c'est un but, une orientation. Ce n'est pas une fin où après on éteint la lumière puis c'est terminé. Alors est-ce que nous, quand nous pensons à l'évangile ou que nous le présentons, ça c'est plus important, on n'aurait pas tendance à laisser, non pas forcément le dire, mais laisser ce sentiment de mot fin à notre interlocuteur. On parle beaucoup, je m'explique, on insiste sur le péché, sur la condamnation, sur le besoin du sauveur, sur l'œuvre rédemptrice, sur la mort de Jésus sur la croix, il a souffert, on explique les blessés, on insiste, qu'il faut demander pardon, sincèrement, etc. Et voilà. Mais souvent, on va pas plus loin, on va pas assez loin, on s'arrête à la porte du tombeau. On ne témoigne pas que Jésus. On ne va pas assez loin. C'est mon sentiment. On a un goût amer quand même si on s'arrête là. Vous savez, c'est comme si on va à la pêche, on ferre le poisson, mais on ne sort jamais de l'eau. Bah, c'est pas de la pêche, ça. C'est faire souffrir les poissons. Excusez-moi. Pourquoi notre foi est valide? Pourquoi elle est valide? Pourquoi elle est valide, notre foi? Parce que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Pourquoi les disciples sont morts ou que Paul a enduré toutes les afflictions? Ce n'est pas par idéologie, par conviction inébranlable, étayée par sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, vous vous souvenez? Marie de Magdala, aussi appelée Marie-Madeleine, elle reste sur place. Elle est effondrée, elle discerne pas, même pas, les anges qui lui parlent. Elle s'adresse même à un autre personnage, elle prend pour un jardinier. Mais Seigneur, où t'as mis le corps? Dis-le-moi, je veux vraiment l'honorer, etc. Elle dit pas tout ça, mais... Et ça, là, ça me touche beaucoup, parce que aucun discours persuasif ni phrase explicative. Un mot, Marie. Marie. Vous vous rendez compte? Et une seule voix peut la tirer de son affliction, de son désarroi. Une seule voix. Marie. Je crois que vous avez déjà entendu cette voix dans les moments où vous avez peut-être vécu le désarroi, le fond de la fosse, toutes ces horreurs, toutes ces difficultés de la vie, où votre vie était vraiment au fond, dans la vase. Et vous avez dû entendre ça, Jean-François, Eric, Émilien, vous l'avez entendu, sinon vous ne seriez pas là. Vous l'avez entendu, Jésus est ressuscité, il est vivant. Amen. C'est vraiment la voix du ressuscité qu'on entend. Le rabouni de Marie est vivant. Son Seigneur devient son Dieu, comme Thomas plus tard le dira un tout petit peu plus loin. Ça, c'est beau. C'est plus que beau, c'est la vérité et ça change nos vies. Jésus ne vient pas seulement consoler ou rassurer. Sa simple présence suffit. Il vient certifier la parole et ses promesses comme réalistes, vraies, accomplies. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Tout devient possible à celui qui croit, parce qu'il est ressuscité. Tout le passé, gommé. Les douleurs du présent, enterrées. Marie tient tellement à Christ, elle le saisit, elle s'accroche à lui, dit-nous la parole. Comment ne pas s'accrocher au Seigneur? Comment? On ne peut pas faire autrement. On ne peut que s'accrocher à lui. Il a non seulement les paroles de vie, il a accompli les paroles, la parole de Dieu. Il l'a accompli. Toutes les questions, soufflées. Parce que Jésus est là. On se rappelle l'arrivée de Jésus marchant sur l'eau, Jésus arrive au moment. exacte où on a besoin de lui, où on l'appelle, où on lui dit « Seigneur, viens à moi, secours !» Il est là, il arrive, il est vivant. Et là, tout retombe, hein, le feu s'éteint, enfin, etc. Tout ce qu'il a annoncé et dit est vérifié, il est bien fils de Dieu. Alors pour nous aussi, son autorité est reconnue et elle s'expose à nos yeux parce qu'on a entendu ou vu ce Jésus ressuscité. Les forteresses, plus rien. Les yeux spirituels s'ouvrent. Hein. Les doutes, on a eu des doutes, nous. Quand on est en présence de Dieu, on a des doutes, non? On peut que douter d'avoir eu des doutes, je dirais, comme j'ai déjà exprimé. Il nous retire des grandes eaux pour ancrer notre foi. Ancrer notre foi. On ne peut pas être arraché à ça. Alors les hommes, les femmes de tout horizon, de toute condition, intelligents ou bêtes, comme nous jugent des fois les hommes, c'est la voix de Jésus qui nous parle, non pas pour nous persuader, parce que nous persuader, mais pour se révéler. C'est une voie de révélation. Une révélation. C'est ça qui nous sauve, parce que Jésus est ressuscité, vivant. Je pourrais vous dire, mais une petite mise en garde quand même. Faites attention, parce que la joie peut même vous faire tressaillir. Ça arrive. Vous pouvez même être surpris à crier « Alléluia !» Ça peut vous arriver. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, bien sûr. N'ayons pas peur de l'exprimer. Il faut exprimer notre joie devant le Seigneur. Amen. Alors tout ça pour vous dire de ne pas s'habituer jamais, non pas au fait qu'il soit ressuscité, mais qu'il est. C'est pas une étape, c'est une vérité. Il manifeste un présent éternel, jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et on le verra, le Seigneur. On pourra l'acclamer dans sa présence, en sa présence. Je vais vous citer un petit exemple, une petite expérience qu'on a eue là. Avec Agnès, on se promenait, il faisait beau, alors on dit, viens faire un tour. Et forcément, en discutant, il y avait le message, il y avait tout ça. Et puis, on parle de la résurrection de Jésus. Puis c'était vraiment l'occasion, hein. Même s'il n'y a pas d'occasion, enfin, on peut en parler tous les jours, toute l'année, hein. Il n'y a pas de souci. Mais là, on en parlait. Et puis, on se rappelait les disciples d'Emmaüs, et puis, on dit, tu te rends compte, pendant tous ces kilomètres, ils n'ont pas vu, et puis, il était avec eux, et c'est au bout de 11 kilomètres qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment lui. Ah ouais, ouais. Et puis, on disait, oui, il est avec nous, même maintenant, c'est sûr qu'il est avec nous. Il est peut-être là, et on s'est retourné pour voir s'il était là. Je vous assure, hein, c'est vrai. Alors on s'est repris, on dit, mais non, on n'a pas besoin de vérifier. Il nous l'assure. Je suis avec vous. Ah, ça change. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Amen. Mais comment est-ce qu'on sait qu'il est ressuscité? Il y a une révélation, bien sûr. Est-ce qu'on ose des fois se poser cette question dans nos vies, au quotidien? Parce que vous savez, des fois, on peut s'habituer à une situation, agréable ou désagréable, mais on peut s'y habituer. Et puis, l'intensité qu'on a pu éprouver au moment où c'était la révélation peut devenir moins expressive, exprimée, explosive peut-être. On s'habitue. Oui, Jésus, il est ressuscité. Hein. Il est ressuscité, tu ne savais pas? Non, il est ressuscité. Il faut qu'on s'encourage mutuellement à le vivre, à le communiquer, même entre nous. L'effet waouh, des fois, il est un peu moins waouh. Hein. Bref. Mais vous savez, quand je prie et que des paroles ou des sujets me sont soufflés, je sais qu'il est là. Quand la paix remplit mon cœur dans la tourmente du monde ou ailleurs, je sais qu'il est là. Quand la peine et la douleur essaye de m'étouffer, je sais qu'il est là. Et quand le vrai souci du lendemain, le vrai souci vient m'assaillir, je sens qu'il est là. Vous voyez, je sais, je sens qu'il est là. Il est vivant, je sens. Et c'est pas une paix qui a dû être négociée, on n'a rien négocié, nous. C'est vraiment une grâce merveilleuse. Alors, j'ai mis une petite note là. Température 37,5 n'est pas suffisante pour couvrir sa chaleur. C'est vrai. Il est toujours plus fort, plus puissant. Quand il est là et on le sent. Où que je sois, il est là. Quoi que je fasse, il est là. Amen. Il n'a pas besoin de concrétiser physiquement sa présence. Il se manifeste. J'ai une petite réflexion quand même là. Faisant partie des disciples, si j'avais été avec les disciples à ce moment-là, aurais-je fait ce que je fais aujourd'hui et tout ce que je dis, sachant qu'il est présent? Pourtant, je le fais ou je le dis. Des fois seulement, bien sûr. Quand je méditais ça, je me dis aïe, aïe, aïe. Pardon, Seigneur. Pardon. C'est là qu'on a vraiment besoin de son Saint-Esprit. Hein. Écouter sa voix. Afin qu'il puisse prendre plus de place en nous, non? Il faut vraiment vivre, sentir que la résurrection a fait de nous de nouvelles créatures. Je repensais à ça tout à l'heure. Jésus, c'est le au matin, au lever du jour, le jour de se lever à peine, qu'ils ont vu que Jésus était ressuscité. Et c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle lumière, un nouvel éclairage. C'est extraordinaire, ça. Tout ce qu'on savait, tout ce qu'on est, c'est nouveau. C'est plus la même lumière. Elle a plus la même force, la même brillance. Elle va déceler. Elle peut même faire disparaître les ombres. Hein? Elle éclaire même là où il n'y a pas de lumière. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, je relève cette consigne de Jésus et des anges dans d'autres évangiles. C'est quoi? C'est redit, par exemple, Matthieu 28, verset 6. Allez vite dire aux disciples. Là, il est redit au verset 17. Va. Jésus dit, va vers mes frères et dis-leur, témoigne. Et ça aussi, c'est frappant. C'est peut-être dans ce seul évangile où Jésus lui-même dit, va vers mes frères, mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. On se sent vraiment co-héritier de Christ à ce moment-là. Hein? Jésus qui prononce ces paroles. Donc c'est Jésus qui dit, témoigne de ce que tu as vu. Préviens les disciples de la bonne nouvelle en attendant que je les voie. C'est comme si c'est fortifie-toi en témoignant. C'est le témoignage qui va ancrer, qui va vraiment t'alourdir de ma présence, qui va te permettre d'être solide et fort. Et à chaque fois que tu témoignes de moi, tu ancres vraiment ton salut et ce que j'ai fait dans ta vie. Par ma résurrection. Donc Jésus, il apparaît aux disciples non pour les consoler, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour accomplir sa promesse de les fortifier. Il scelle, quelque part, en eux et en nous, une certitude, une conviction, une vérité de sa résurrection. C'est vraiment l'accomplissement de toute la volonté de Dieu et l'accomplissement de la parole. Alors, il a dit « Va, n'ayons pas de retenue de témoigner ». Faut pas se retenir. On a envie de le dire, et ben on le dit. Et je me suis dit quand même, va vers mes frères. Déjà, premièrement, les uns les autres, on doit aller les uns vers les autres, s'encourager, se fortifier, témoigner de la parole de ce qu'on a trouvé, de ce que le Seigneur nous a donné. Partageons ces encouragements les uns avec les autres. Bien sûr, avec amour, avec, comment dirais-je, le plaisir de partager, pas d'imposer quoi que ce soit. Hein. Et ça fait du bien quand on entend un témoignage. Quarante jours ont été nécessaires pour que les disciples s'accaparent les conséquences de la résurrection. 40 jours. Heureusement, il est resté 40 jours avec eux. Parce qu'au verset, en Luc 24, verset 25, j'ai lu, il leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et ça, c'est dans notre nature. On est lent, hein. On n'est pas des rapides. Jésus est ressuscité. Ouais, il est ressuscité, mais il y a encore des progrès à faire. On a encore des progrès à faire. Jésus ne les convainc donc pas avec des mots, mais avec des actions. Voyez, touchez quand il se présente à eux. Voyez, certains l'ont touché. Mets tes mains là, comme il a dit à Thomas. Et ça, c'est extraordinaire. il n'y a pas de discours. Il y a des enseignements et des actes. Ce que je remarque aussi, c'est que Jésus n'est pas monté directement vers le Père, car son œuvre devait être complète. Comment aurait-il pu laisser à l'abandon ses disciples? Hein? Comment? C'était impossible. Le Père lui avait donné vraiment accès à tous ces gens qui étaient venus à lui. Il en était responsable. Et c'est vrai que, quelque part, il leur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jean 15, verset 4, rappelle l'image du cep et des sarments. Nous sommes greffés. Hein? Nous sommes greffés. On vit, on prend la sève que Christ met en nous. Et c'est grâce à cela qu'on peut produire quoi que ce soit de bon. Et puis imaginez le souffle de Jésus sur vous, verset 22. Non, c'était pas celui-là. Quand il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Les dix disciples au moins, peut-être plus, mais il avait au moins les 10 qui étaient là, ont reçu déjà comme un aperçu de la Pentecôte. C'est presque un acompte. Hein. Déjà, ça les a boostés, comme on dit. Et on lit aussi que la résurrection est même annoncée aux gens hostiles. Ah bon? Ben oui. Il y a les gardes, vous savez les gardes là, ils ont paniqué. Hein. Il y avait de quoi. Hein. Ils étaient chargés de garder le tombeau et puis quand ils ont assisté à tout ça, ils sont vite allés raconter ça aux sacrificateurs. On lit ça en Matthieu 18, versets 11 à 15. Mais qu'est-ce qu'ils font eux? Ils s'enferment dans leur incrédulité. Ils sauvegardent leur religiosité. Alors, tenez-vous bien, je vais parler latin. Errare humanum. Vous savez ce que ça veut dire? L'erreur est humaine, on peut se tromper. Ouais, mais alors, c'est pas de moi, c'est Augustin. Tout de suite après, il y a perseverare diaboliticum. C'est-à-dire, si tu persévères dans ton erreur, que tu t'attaches à ton erreur, là, c'est l'œuvre du diable. Hein. C'est le malin qui te saisit. Alors, il est évident que pour eux, les voleurs de dépouilles, ils ont pris le temps d'ôter les bandelettes, ils ont pris le temps de replier soigneusement le linge qui voilait le visage de Jésus, avant de ne voler que le corps. Ben pour eux, c'est évident. Hein. Mais j'ai noté quand même, vous l'avez certainement noté aussi, qu'un garde qui faillait à sa mission, il risquait la vie, on pouvait le tuer. Si c'était endormi, il était très gravement puni. Donc je vois pas pourquoi. S'il n'y avait pas eu cette grosse somme d'argent, ça devait être une sacrée tirelire. Hein? Et puis la promesse de la protection des sacrificateurs, ils n'auraient pas répandu cette, une version officielle. Hein? Une version officielle. Ça, mais je me souviens du geôlier de Paul quand même. Lui voulait même se tuer, vous vous souvenez? Quand il a vu que les prisonniers étaient partis. Paul est intervenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est converti. C'est extraordinaire. Après, il a soigné Paul. Il lui a donné à manger. C'est incroyable. Mais tout ça, ça ne m'étonne pas parce que le monde est encore sous l'influence de l'ennemi de Dieu. Alors, comment on ne peut rappeler que, pour la résurrection, le Christ roi a dépouillé les dominations et les autorités? On le chante, ça, avec force, avec conviction. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Hein, on connaît tous ce chant, c'est extraordinaire. Parce que c'est la vérité. Dieu a triomphé. Alléluia, Jésus a triomphé, non seulement de la mort, mais il a dépouillé les autorités et les dominations, celles qui voulaient anéantir l'œuvre du Seigneur. Et puis je vous renvoie à ça, on va pas le lire, mais ça, vous allez sûrement le lire en rentrant. Parce que c'est Pâques, donc il faut vraiment relire 1 Corinthiens 15. Hein, 1 Corinthiens 15 nous rappelle d'où nous tirons notre foi. De la résurrection. Pour être si vivifiante et fortifiante, car Christ est... Eh oui. Faut-il rappeler combien ont vu, combien ont touché Jésus ressuscité? Les fidèles disciples, bien sûr, qui l'ont encore côtoyé pendant 40 jours, et puis les 500, etc., il y en a eu plein. C'est vraiment la cause et l'origine de la chrétienté pendant plus de 2 millénaires. Mais le plus important pour nous, le plus important pour nous, c'est que dans notre nouvelle naissance, depuis notre nouvelle naissance, elle a changé notre vie. Pas vrai? Ça n'a pas changé notre vie, cette résurrection. Elle a changé notre vie. Vous savez, sur le chemin des deux marcheurs, là, qu'ils avaient entendu parler par des gens dignes de foi, que c'était passé, que Jésus était plus là, etc., qu'il devait peut-être même être ressuscité. Mais ils y croyaient pas vraiment. Et Jésus marchait avec eux. Mais quand ils ont découvert, quand il s'est révélé à eux, l'enthousiasme leur a fait faire 11 kilomètres, certainement au pas de course, même s'il faisait nuit, pour aller annoncer, concrétiser, témoigner que c'était vrai, que Jésus était ressuscité. Je vais terminer par un petit témoignage personnel, c'est que il y a de nombreuses années, il y avait une brave chrétienne qui m'évangélisait, une femme de pasteur. Alors elle me présentait la parole de Dieu sous le nez. Voyez, là c'est écrit là. Il y avait Jean 3,16, etc. Mais moi, je voyais un formulaire à remplir. Ben oui, hein, vous savez, Dieu a tant aimé le monde, quiconque croit en lui, quiconque... Là, mettez votre nom, c'est qu'un formulaire. Et puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque mon besoin était grand, j'ai osé interpeller Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a répondu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a appelé par mon prénom. Il connaissait tout. Il savait mon besoin. Il connaissait notre besoin. Quand il s'est révélé à nous, il a répondu à nos besoins. Il n'a pas dit Marie, mais il nous a appelé par notre prénom. Avec tout ce que ça comprend. Là, c'est pas un formulaire. Hein. Là, j'ai vécu autre chose qu'un formulaire. Hein. C'est pour ça qu'il faut, quand on témoigne, aller plus loin que le tombeau. Il faut aller au-delà, c'est-à-dire jusqu'au bout de l'œuvre du Seigneur. Ben, nous, on la finira pas. Mais témoignons jusqu'à sa résurrection. Que le Seigneur est vivant, qu'il peut se manifester, qu'il va se manifester. Nous y croyons. Amen. Alors si je demandais à quelqu'un de témoigner après mon message, je pense que bon, je vais pas le faire, parce qu'on serait plusieurs à venir témoigner. Moi, je vais témoigner. Moi, non. Vous avez pas envie, vous n'auriez pas envie de venir témoigner de la résurrection du Seigneur, ce qu'il a fait pour vous. Mais si, je crois que c'est ça. Alors on va prier.